Je pense qu'une équipe, c'est comme une équipe de foot. Et ça, c'est Eric Franck qui m'en a parlé et il avait raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que des buteurs. En fait, dans une équipe, il faut des profils extrêmement variés. Et là, je ne parle pas de diversité, justement, comme on l'entend et comme il faut cocher la case.
Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast de l'AGFI dédié aux parcours inspirants dans la finance. Dans ce nouvel épisode, je reçois Léa Dinon-Châtelet, gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA Finance. Passionnée par l'architecture et férue de sport, Léa Dunant-Châtelet se dirige vers la finance après des études à l'ENS. Un peu par défaut, elle se retrouve analyste ISR Sell-Side chez Odo Securities. L'investissement socialement responsable en est à ses balbutiements, mais l'expérience l'intéresse et forge le caractère de la jeune femme. En 2010, Léa Dunant-Châtelet rejoint Sycomore, où elle va bâtir le pôle de recherche ISR de la boutique et devenir gérante. Une expérience entrepreneuriale où elle s'épanouit dans un environnement dynamique et sportif et un contexte enfin porteur. 5 ans plus tard, elle décide de partir chez Mirova pour un poste de direction. Un choix de carrière qui ne lui convient pas vraiment. D'un tempérament radical, elle démissionne et quitte Paris pour l'Australie. Pendant 1 an, elle travaille dans une école de kitesurf et fait le point sur sa vie. Indécise quant à l'avenir, elle est convaincue par les dirigeants de DNCA de rentrer en France et de retourner dans la gestion d'actifs. Léa Dunant-Châtelet me parle sans filtre de ses choix, du sport qui est resté un fil rouge dans sa carrière et de l'importance du terrain. Bonjour Léa Dunant-Châtelet.
Bonjour Laurence.
Travailler dans la finance, est-ce que c'était un rêve de gosse ?
Alors, pas du tout. À vrai dire, je ne m'étais pas orientée en tout cas sur ce domaine-là, que je ne connaissais pas très bien d'ailleurs. J'étais plutôt partie pour faire de l'architecture au départ, ou du journalisme sportif, parce que j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse. Voire même, j'avais pensé à la police criminelle. J'avais un grand-père qui avait fait partie de la police. Et donc, plutôt des métiers de terrain, je dirais, et assez concrets en réalité.
Quel type de sport faisiez-vous ?
Alors j'ai fait du patinage artistique pendant de nombreuses années. Et puis quand malheureusement j'étais trop vieille pour continuer, c'est-à-dire à 15 ans, je me suis orientée vers la boxe. J'ai continué à patiner longtemps encore, mais je me suis orientée vers la boxe française, qui est un sport très complet, qui m'a permis de garder la forme.
Ouais, et vous en faites toujours ?
Et j'en fais toujours, oui, absolument.
Alors revenons sur l'adolescence. Vous êtes plutôt matheuse, vous suivez des études scientifiques. Et après une prépa, vous êtes admise à l'école normale supérieure que vous intégrez. Qu'aviez-vous en tête en rejoignant cette école ?
Pas grand-chose, à vrai dire. Ça a été un peu un choix par défaut, si on peut dire ça. C'est-à-dire que c'est une école qui ne se refuse pas, évidemment. Mes parents étant eux-mêmes professeurs dans les mathématiques et la physique, pour eux, c'était un peu une consécration. Donc, il était hors de question que je refuse ce poste, puisqu'en réalité, c'est un poste qu'on accepte quand on rentre à l'école normale. Donc voilà, j'ai découvert en fait le monde académique, parce que c'est une école qui a vocation au départ à former des professeurs, mais surtout des chercheurs. Et ce n'était pas du tout la voie que j'avais envisagée au départ.
Vous n'aviez pas envie d'être enseignante ?
Pas vraiment. Très honnêtement, je pense que c'est des métiers de vocation. Ce n'était pas la mienne. Néanmoins, j'ai quand même enseigné. Je continue encore un peu aujourd'hui. Je trouve que c'est toujours très intéressant, les interactions qu'on peut avoir avec les jeunes, parce qu'ils ont des questions qu'on ne se pose plus, en tout cas quand on est dans le monde actif, et un regard assez neuf. Donc c'est intéressant. En revanche, le faire au quotidien, c'est quelque chose que je n'envisageais vraiment pas.
C'est à ce moment-là, à l'ENS, que vous découvrez l'économie et la finance. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette matière ?
C'est vrai que j'avais pas du tout pratiqué l'économie au sens de la macroéconomie au lycée. Donc, je le découvre au moment de l'école normale. Déjà, en fait, une science qui, pour moi, était molle, qui, en réalité, était une science dure, avec beaucoup de paramètres à analyser. Un peu de concret quand même, parce que finalement l'économie, ça touche au monde que l'on voit tous les jours et dont on ne comprend pas forcément les décisions. Tout ça était un monde assez flou pour moi, qui m'a permis finalement de faire un parallèle, parce qu'il y a beaucoup de statistiques dans l'économie en réalité, il y a beaucoup même d'économétrie, de faire un parallèle avec mon domaine de départ qui était les maths et de comprendre que toutes ces données-là pouvaient permettre, enfin s'interchoquer en fait, et que tout ça était relié, et avec énormément d'informations. C'était probablement ça la grande découverte pour moi, beaucoup d'informations très concrètes.
Alors l'ENS offre un large éventail de débouchés et à la sortie en 2005, vous partez travailler chez Odo Securities comme analyste ISR, sell-side. Pourquoi avoir choisi ce métier à une époque où l'extra-financier, l'ISR, était encore très marginal ?
Alors, très sincèrement, c'était juste après l'époque de la candidature de Paris au JO. Ça fait le pont avec l'actualité. Donc, j'avais quand même essayé d'intégrer les équipes qui s'occupaient de la candidature parce que ce thème du sport m'a toujours intéressée. Bon, là, pour le coup, avec un échec total. Du coup, j'ai cherché quand même à trouver un poste dans les marchés financiers puisque j'avais cette casquette d'économie. Et plutôt côté maths, donc plutôt des métiers de trading, de produits structurés. Alors là, je pense que j'ai envoyé mon CV à peu près toutes les banques d'affaires de la place parisienne et londonienne, sans succès, vraiment sans succès. Et le seul retour que j'ai eu venait de la Banque Odo, alors pour un poste dont je ne connaissais même pas le nom, analyste ISR, effectivement. Et quand j'ai été reçue, donc ils m'ont expliqué un peu de quoi il s'agissait. Pour être tout à fait franche, le seul intérêt que j'avais, c'est qu'à l'époque, on était encore en salle de marché quand on était analyste sell-side. Et donc, je l'ai accepté, ce poste, pour lequel il n'y avait pas de candidat et pour lequel, finalement, moi, j'avais aucune offre en face. Donc, c'était un peu la seule option qui me restait. Et donc, j'ai commencé comme ça chez Odo, qui m'a laissé cette opportunité-là.
Et ça vous a plu, ce domaine ?
Alors oui, et sinon j'aurais pas continué. En fait, la grande découverte que j'ai faite, c'était embryonnaire à l'époque encore, l'analyse extra-financière. Donc finalement, il y avait très peu d'informations des entreprises sur les sujets environnementaux, sociaux, un peu plus sur la gouvernance, mais ça restait quand même encore très très peu standardisé. Et il se trouve que dans les données extra-financières, de mon point de vue, il y avait des informations qui permettaient de comprendre les entreprises ou d'anticiper certains comportements des entreprises. Et donc j'ai fait ce que je savais faire, j'ai pris les données, le très peu de données qu'il existait, et j'ai fait des modèles et j'ai essayé de trouver la corrélation finalement entre les comportements boursiers des entreprises et puis les informations extra-financières dont on disposait.
Et à l'époque, vous étiez entendu sur ces sujets ?
Alors, il y avait déjà un mouvement quand même de fond de certains grands investisseurs institutionnels qui, effectivement, avaient une prise de conscience de l'importance du comportement d'une entreprise, de sa réputation, de la manière dont elle opère ses activités. Mais c'était vraiment très marginal. De ce point de vue-là, et c'est pour ça d'ailleurs que Odo avait commencé cette activité, il y avait des débouchés et une écoute. D'une certaine manière, je dirais qu'en moyenne et en majorité, c'est des sujets qui n'étaient pas du tout pris en compte. Et au sein de mes collaborateurs, les collègues avec qui je travaillais, que ce soit les traders, les vendeurs ou les autres analystes, mais également auprès des clients. Donc ça restait encore très marginal. L'écoute, de ce point de vue-là, était ténue. Mais c'est pas grave, ça forge le caractère.
Et en 2010, vous quittez Odo ? Mais vous restez dans l'univers extra-financier, vous rejoignez Sycomore en tant qu'associée directrice de la gestion ISR. C'est un poste plutôt entrepreneurial puisque vous partez d'une feuille blanche pour créer l'équipe de recherche et la stratégie des fonds ISR que vous allez ensuite gérer. Comment vivez-vous ce nouveau défi, Léa ?
Il faut remettre dans le contexte, on est post Lehman Brothers, et donc c'est vrai que ça a été une époque extrêmement turbulente, justement, côté broker, sell side. C'est la raison pour laquelle j'ai basculé assez vite, finalement, dans la gestion d'actifs. Normalement, on fait plus d'années que ça dans le sell side. Sycomore, en fait, le projet me plaisait. On était une trentaine à l'époque. Il y avait un peu plus d'un milliard en cours sous gestion, ce qui est petit, en fait, pour une société de gestion, mais vraiment une équipe extrêmement dynamique. Le sport, d'ailleurs, était un des fondements, en fait, des associés et des différents collaborateurs qui constituaient cette maison. Et donc, eux s'étaient dit, bon, on a une base de clientèle qui nous réclame de l'analyse extra-financière, que l'on ne sait pas faire. Et lorsqu'ils m'ont proposé de démarrer from scratch, je me suis dit, c'est extrêmement intéressant parce que je prends, d'une certaine manière, le leadership sur une philosophie et un modèle d'analyse. C'est une chance assez rare, en fait, hein, d'avoir cette possibilité de partir de rien, feuille blanche, comme vous avez dit, et d'essayer de construire quelque chose qui tient la route, avec une liberté totale, c'est-à-dire, effectivement, des associés fondateurs qui m'ont laissé le crayon, qui m'ont laissé du temps pour construire quelque chose et qui m'ont surtout laissé l'opportunité d'aller en parler avec l'ensemble de leurs clients. Et donc, très vite, ça s'est concrétisé. Ils m'ont donné les moyens de développer un modèle d'un point de vue technique, j'entends, et puis de construire une équipe. Et dans ce type de société où finalement les décisions se prennent très très vite, et en général on voit assez rapidement aussi les conséquences de son travail, ou en tout cas l'aboutissement de son travail est assez concret. Et donc ça a été un succès en très très peu de temps, parce qu'il y avait peu d'offres d'une part, peu d'offres sérieuses d'autre part, et une demande qui commençait là pour le coup à devenir de plus en plus prégnante. Et donc on a pu lancer des fonds, on a pu élargir l'activité très rapidement et rencontrer un vrai succès.
Et aujourd'hui, Sycomore est un acteur reconnu dans ce secteur. Et pourtant, 5 ans plus tard, vous partez pour rejoindre Mirova, le tout nouvel affilié de Natixis IM sur la gestion durable. Vous devenez directrice des investissements actions à la tête d'une équipe de 10 gérants. Pourquoi avoir fait ce choix de Mirova? Et est-ce qu'il était plus facile de travailler dans une entreprise qui était uniquement dédié à la gestion durable, hein, que de le faire dans une entité qui ne faisait pas que cela, comme par le passé?
C'est une bonne question. Alors déjà, ça rappelle que les parcours professionnels, comme tout dans la vie, on fait face à des choix, et on peut se rendre compte a posteriori que certains choix ont été pris pour de mauvaises raisons. En tout cas, c'était mon observation quant à Mirova. Le projet était extrêmement intéressant. La proposition qui m'a été faite était une proposition de carrière, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je passais d'un poste où j'étais gérante et responsable d'un pôle de recherche extra-financier à un poste de direction où je prenais la responsabilité de toute la gestion action, qui était beaucoup plus grosse, c'était quasiment 4 milliards à l'époque. Il y avait une vingtaine de gérants, donc il y avait un côté dimensionnement qui m'offrait justement une envergure un peu plus importante, et aussi un côté positionnement. C'est pour cette raison que j'ai changé. Le constat, il a été finalement assez rapide. C'est les postes de direction de ce type, à mon âge, j'avais une trentaine d'années, vous enlèvent très vite en fait du terrain, dans des structures qui sont des structures beaucoup plus importantes, hein, puisque Mirova était une émanation du groupe Natixis, donc avec une culture d'entreprise de grands groupes bancaires, avec des process également de grands groupes bancaires, et donc finalement d'avoir un métier qui tourne autour de l'organisation quotidienne en fait, beaucoup plus qu'un métier de terrain. C'était probablement prématuré, parce que je suis vraiment convaincue que l'expérience de terrain dans ces métiers-là, elle représente 80% de votre crédibilité et de votre capacité à continuer à évoluer. Et donc en perdant en fait cet aspect-là et en ne m'occupant finalement plus que des aspects de ressources humaines, d'organisation, de comitologie, je m'éloignais de mon métier de base. Et donc ça a été un choix de carrière mûrement réfléchi, hein, clairement. Ça a été plus d'une année de réflexion et de négociation entre les deux maisons. Et en réalité, pour me rendre compte à la fin que je perdais de ma substance. Donc j'ai préféré effectivement m'arrêter.
Et effectivement, vous vous arrêtez et puis vous partez.
Oui. Alors ça, c'est mon fonctionnement un peu radical. Ça ne me convenait pas et j'en ai parlé avec eux. Et donc, il était préférable que je parte. Donc, j'ai démissionné sans objectif, en fait, en face de changement de poste. Et puis, ça faisait déjà 15 ans que je faisais ce métier. Donc, je me suis dit qu'il était temps de faire un break, en fait, de me poser les bonnes questions. C'est-à-dire que ce choix m'a amené à réaliser qu'on est dans des métiers très intenses, qui prennent beaucoup de temps. Je venais d'accoucher, mon fils était tout jeune. Et donc, j'ai privilégié un peu de temps pour lui et pour moi, à l'autre bout du monde. Je suis partie en Australie. C'était l'occasion, justement, de changer d'environnement totalement, pour voir un petit peu comment je peux évoluer, ou je pouvais évoluer, en tout cas à l'époque, en dehors du monde de la finance qui me prenait 80% de mon temps. Donc, je suis partie dans une école de kitesurf, et j'ai fait les plannings et le secrétariat et l'accueil, d'ailleurs, de cette école pendant un peu plus d'un an. Un métier complètement différent, vous l'imaginez.
Oui. Métier, univers complètement différent. Et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Alors, beaucoup de choses. D'abord, de réaliser que dans tous les métiers où on souhaite faire le mieux et être excellent, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Le kitesurf est un métier qui dépend des éléments, du vent, de l'eau, des conditions météorologiques, où il faut gérer des hommes. C'était une école où il y avait une quinzaine d'instructeurs, où vous ne savez pas vraiment au jour le jour quand le vent va se lever ou va tomber. Vous essayez de caser dans tout ça des clients qui souhaitent apprendre le kitesurf. Et donc, vous êtes sur le front tous les jours, y compris les week-ends. Alors déjà, moi, je me plaignais à l'époque des marchés financiers parce qu'on travaille souvent, même quand on est en vacances. Ça, c'est incontournable. Et évidemment, les jours fériés. Bon, ben là, vous travaillez vraiment tout le temps, y compris le week-end. J'ai réalisé finalement la chance que j'avais que la bourse soit fermée le samedi et le dimanche.
Et est-ce que vous pensiez revenir quand vous êtes partie ?
Non. Non, non, mais alors je me projette jamais très très loin en fait dans ce type d'aventure et de manière même personnelle. Je savais en tout cas que je ne reviendrais pas dans les marchés financiers autrement que dans une logique d'entrepreneuriat.
Et c'est ce que vous faites alors finalement. Un an plus tard, en 2018, vous rejoignez DNCA Finance, également affilié de Natixis IM, et vous y devenez responsable de l'investissement responsable. Qu'est-ce qui vous a séduit chez DNCA Finance ?
Bah alors là, c'est très simple et c'est à l'image un peu de mon fonctionnement à nouveau. C'est-à-dire que j'ai parlé à Eric Franc, en revenant d'Australie, pour 2 mois en réalité. Je ne revenais pas forcément définitivement. Et Eric m'a dit, voilà, on doit monter un pôle d'expertise ISR. On n'a absolument rien fait jusqu'à maintenant. Il paraît que vous revenez en France et que vous êtes libre de droit d'une certaine manière. Parlons-nous. Alors je lui dis, ça ne peut pas mieux tomber. Je suis à Roissy. Et je suis là pour quelques jours, donc on se voit quand vous voulez. Il m'a dit, bon, bah, demain matin, 8h. Et ça, déjà, je me suis dit, bon, là, j'ai affaire à des personnes qui sont très réactives, ce qui était une condition quasiment nécessaire pour moi. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir, en l'espace de 2 heures, les 4 dirigeants à l'époque de DNCA. D'abord, la partie, je dirais, plutôt gestion, avec évidemment Jean-Charles Mériot, où là, on a parlé un peu technique, où j'ai compris effectivement que le chemin à parcourir allait être long, à la fois d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue philosophique. C'est une maison de gestion encore plus éloignée que ce que pouvait être Sycomore à l'époque de ces sujets. Et puis ensuite, j'ai parlé à Eric Franc et Grégoire Chef, qui sont plutôt la direction opérationnelle et commerciale. Et là, on a parlé de Calisurf pendant 1 heure, en fait. Ils n'ont absolument pas cherché à savoir ce que j'avais fait avant. Ils s'étaient probablement renseignés de toute façon. Et là, j'ai retrouvé l'esprit sportif qu'il y a aussi chez DNCA. Et on s'est quitté. Il était 10h, donc 2 heures après. Ils m'ont proposé de faire une feuille de route que je leur ai envoyée, je pense, 1 heure ou 2 après. Et début d'après-midi, j'avais un contrat. Et ça, ça a été mon élément de décision. Je me suis dit, bon, là, effectivement, on va pouvoir avancer très vite parce que j'ai en face de moi des personnes qui sont très réactives et cet esprit entrepreneurial de DNCA est toujours présent, donc ça me convient.
Vous n'avez pas regretté ?
Absolument pas. Ah non, non, absolument pas, parce que j'ai retrouvé l'esprit entrepreneurial que j'aimais et en plus, une dimension quand même totalement différente, puisque c'était une société de gestion qui avait presque 20 ans d'existence, des encours assez significatifs, qui avait lancé d'autres expertises par le passé avec beaucoup de succès. Donc à la fois une dimension familiale très forte, des interactions extrêmement fluides, et puis en même temps des moyens, beaucoup plus de moyens que ce que j'avais pu connaître par le passé. Et finalement, une carte blanche à nouveau pour pouvoir construire, comme je le sentais, cette nouvelle expertise.
A-t-il été facile de vous imposer et d'apporter votre vision extra-financière aux équipes déjà en place ?
Je ne me suis jamais vraiment posé la question comme ça, en fait, parce que je crois que rien n'arrive au forceps. En tout cas, rien n'arrive de bien au forceps. J'ai refait ce que je savais faire, hein. J'ai construit un modèle. Il y avait beaucoup plus d'informations là, à ce moment-là, donc c'est totalement différent. Et puis j'ai commencé à analyser et surtout, j'ai tout de suite proposé de lancer une gamme de fonds. Et le seul moyen de partager en fait son expérience, c'est aussi d'avoir son propre avion et de le piloter. Et ça, c'est une conviction depuis le départ grâce à Sycomore, parce que j'ai pu gérer chez eux de manière assez inattendue, parce qu'il fallait lancer des fonds et que personne ne voulait gérer ces fonds-là à l'époque. Là, chez DNCA, c'était différent. La gamme était déjà très fournie. On aurait très bien pu transformer en ISR un certain nombre de fonds. Et j'ai donné quand même un avis au départ qui me semblait pertinent, c'était de dire la transformation, elle arrive trop tard. C'est-à-dire que la vraie transformation des fonds existants en ISR, ça date des années 2010. Là, on était en 2018, tout le monde avait déjà fait ce pas. Et ceux qui allaient vers l'ISR en continuant cette transformation, ne témoignait pas d'un véritable engagement. Donc plutôt que de faire ça, moi j'ai pensé qu'il était beaucoup plus intéressant de lancer une gamme, de montrer qu'on partait de zéro euro, c'est-à-dire vraiment on part de fonds qui n'ont pas de seed, un petit peu de notre maison mère, mais franchement pas grand-chose, et donc quelque part d'essayer de montrer qu'on était capable d'aller lever des fonds sur ces nouvelles stratégies, d'appliquer les méthodes à ces nouvelles stratégies, et finalement par effet de porosité, d'amener d'autres gérants à regarder, parce que les performances fonctionnent, parce que les signaux fonctionnent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les gérants, progressivement, se sont dit, tiens, effectivement, il y a des choses intéressantes. Et puis, de fil en aiguille, la mayonnaise a pris.
Alors, vous avez toujours travaillé dans le domaine de l'ESG, hein, finalement, à part quand vous étiez en Australie. Vous êtes vraiment identifiée comme une experte de ce domaine et participez à de nombreuses commissions de places spécialisées. Comment avez-vous vécu le développement et l'explosion de ce secteur? Et inversement, comment percevez-vous certains reculs dans ce domaine à l'heure actuelle?
Alors l'explosion, elle était saine au départ. Donc là, je parle des années 2010. C'est vraiment là où ça s'est accéléré. Elle est devenue beaucoup moins saine autour des années 2015-2020. Parce que la première explosion, c'était le fruit d'une démarche assez volontaire du marché, de proposer ses nouveaux produits et d'essayer, chacun dans son coin, de trouver des méthodes. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de greenwashing, c'est-à-dire il n'y avait pas de démarche frauduleuse. Il y avait des démarches moins bonnes ou meilleures que d'autres, mais tout le monde était convaincu. À partir du moment où c'est devenu une case à cocher, là, vous avez des passagers clandestins qui rentrent. L'introduction de ces passagers clandestins, elle amène à une défiance, en fait. Et ça, c'est mon constat actuel, c'est-à-dire qu'on a une défiance à la fois des clients finaux, parce que l'ISR n'a pas été cadré, commence à l'être, mais n'a pas été cadré jusqu'alors. Et donc, finalement, vous avez absolument toutes les offres possibles et imaginables. Et la question qui est amenée systématiquement, c'est finalement, qu'est-ce que c'est l'ISR, puisque tout est possible. Et c'est vrai. Et donc, cette défiance-là, là, elle met à mal la crédibilité de l'ISR depuis 2-3 ans. Et donc, vous avez forcément le régulateur qui s'empare du sujet. Alors, c'est à la fois une bonne chose. Il fallait réguler, il fallait standardiser, donner un cadre, en tout cas, un petit peu plus clair à tout le monde. Néanmoins, lorsque vous avez un régulateur qui arrive, et là aussi, c'est valable dans absolument tous les secteurs et dans tous les domaines, ça manque parfois de recul et de terrain. Et donc, les propositions qui peuvent être faites parfois ne sont pas réalistes. Et ce n'est pas un défaut d'engagement, c'est un défaut de moyens. À commencer par des moyens basiques de données. La donnée existe, mais la donnée n'est pas standardisée. Il n'y a pas de comptabilité aujourd'hui qui existe. Vous mélangez des choux et des carottes en permanence. Et donc on arrive aujourd'hui à une situation, c'est un grand écart qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois montrer patte blanche, mais dans un domaine qui est encore en construction, sur lequel on va avoir, et on a déjà beaucoup de contrôle, et une incapacité totale à proposer une vue homogène. Tant qu'on n'aura pas avancé, l'ISR souffrira encore, pour l'instant, d'une vue qui est, en fait, c'est beaucoup de contraintes, pour très peu de résultats. Il y a un point que je n'ai pas évoqué, mais qui me semble important, c'est que l'explosion s'est faite par les produits, donc par l'offre, et pas par la demande. Et en réalité, aujourd'hui, c'est le relais de la demande qui manque. Parce que les moyens qui sont demandés aujourd'hui et qui doivent être déployés sont colossaux, que ce soit financiers, humains ou opérationnels, donc de data, mais aussi de développement technologique, pour en face aujourd'hui une demande qui est relativement frêle. Et ça, c'est probablement ma plus grosse déception. C'est que cette période qui a coûté cher à l'ISR en crédibilité a créé une défiance. Et aujourd'hui, l'ISR est vu comme un frein à la performance, voire du greenwashing, et donc n'emporte pas l'adhésion du client final. En tout cas, pas suffisamment.
Auriez-vous pu travailler dans un autre domaine?
Ah oui, oui. Ouais. Alors, complètement. Mais moi, je suis assez caméléon de ce point de vue-là. Demain, effectivement, si vous me proposez n'importe quel autre projet et que mon métier ne me plaît plus, je suis capable de partir sur tout à fait autre chose.
Et en tant que femme, avez-vous ressenti qu'il était plus difficile de vous imposer dans l'univers de la finance?
Alors moi, j'ai jamais ressenti ça. Mais vraiment jamais. Mes collègues m'appellent Léo. Peut-être que c'est lié. Mais non, mais en fait, je pense que dans un univers, qu'il soit féminin, masculin ou quelle que soit la technique, en fait, ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, il faut s'adapter. L'univers de la finance est par définition un univers masculin. Bon, c'est comme ça, il y a plein d'autres secteurs où c'est le cas aussi. Donc c'est vrai qu'il faut parler avec les hommes comme un homme. Ça, c'est un constat, mais je fonctionne comme ça déjà de base. Donc en réalité, j'ai jamais été heurtée sur quoi que ce soit, ni freinée de par le fait que j'étais une femme. Alors c'est vrai que l'association Femmes plus Écolo, je caricature un peu, bon, ça peut être éventuellement vu comme un frein, mais je pense que ça tient qu'à soi de sortir de ce carcan. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais vécu comme tel. Et au contraire, j'ai beaucoup d'alliés et de collègues masculins avec qui je travaille maintenant depuis des années. Et je pense que ce sujet-là n'en est jamais un. Vraiment jamais un.
Vous ne vous positionnez pas particulièrement comme rôle modèle pour d'autres femmes ?
Non, parce que je pense que c'est un... En fait, c'est dommage de le voir comme ça. Et l'actualité et les dernières années ont montré qu'il y a des abus. Ces abus-là, effectivement, il ne faut pas les laisser passer. Ça, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, la parole est suffisamment ouverte pour pouvoir s'exprimer. Et en plus, je sens véritablement dans les directions que c'est un sujet qui est... Lorsqu'on a en face de soi des hommes avec un comportement normal, je peux vous assurer que si vous amenez un sujet de ce type-là, il n'y a pas de débat. Tout le monde vous soutient. En revanche, il ne faut pas trouver une position qui fait que finalement, les hommes, eux, se retrouvent en inconfort. Et le conseil aux femmes, c'est fermez pas toutes les portes des hommes parce qu'il faut être ultra féministe. C'est dommage, on doit vivre tous ensemble, on fonctionne très bien tous ensemble. Et je pense sincèrement, moi, mon expérience, c'est qu'on a des visions, en particulier sur les marchés financiers, très, très différentes. Et donc, en fait, on est extrêmement complémentaires. De cette complémentarité-là, il existe une vraie valeur ajoutée. Donc, il ne faut surtout pas se cantonner à ce rôle homme-femme.
Et vous avez très tôt fait du management. Quel genre de dirigeante êtes-vous ?
Alors, je pense que je dirige rien du tout, en fait. J'ai un rôle de maman. Les gens de mon équipe sont des personnes que je protégerai comme mes enfants, d'une certaine manière. Je pense qu'une équipe, c'est comme une équipe de foot. Et ça, c'est Eric Franck qui m'en a parlé. Et il avait raison. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que des buteurs. En fait, dans une équipe, il faut des profils extrêmement variés. Et là, je ne parle pas de diversité, justement, comme on l'entend et comme il faut cocher la case, dans le sens où vous avez des profils plus patients, plus résilients, peut-être un peu plus introvertis, mais qui, en fait, dans des périodes un peu turbulentes ou complexes, vont apporter une sérénité. Vous allez avoir des profils très rentre-dedans, qui vont être dynamiques et qui vont être capables de s'opposer à d'autres personnes quand c'est nécessaire. Vous allez avoir des profils studieux. Et donc, en fait, c'est comme une composition. Il faut essayer de trouver un équilibre avec des personnalités différentes qui vont finalement chacune trouver leur place toute seule. Et donc l'organisation, elle est toujours très simple. Moi, je fais l'état des lieux des tâches qui sont référencées dans l'équipe pour l'année. Aujourd'hui, la liste est extrêmement longue. Ça veut dire qu'il faut trouver les moyens de motiver une équipe qui va travailler en réalité deux fois plus qu'elle ne devrait. Être sûr que cette motivation va rester. Et la première clé de lecture, c'est que chacun choisisse ce qu'il a envie de faire. Et ensuite, s'il y a un problème ou une surcharge de travail chez l'un ou chez l'autre, on s'exprime. Et naturellement, les uns et les autres viennent prendre le relais et rajoutent des tâches. Moi, je vais prendre le relais aussi sur des choses que j'ai fait en tout début de carrière. Il y a un moment un peu tendu, il faut de la main-d'œuvre, je vais le faire, et il n'y a pas de problème. C'est très linéaire, il n'y a pas de positionnement. Donc, je ne parlerai pas de management parce qu'en fait, j'en fais pas vraiment.
Et alors, Léa, en dehors de la finance, quelles sont vos passions, vos intérêts ? Vous avez parlé de la boxe tout à l'heure, mais encore.
Mes intérêts personnels sont assez limités parce que mon temps est limité, mais je m'intéresse beaucoup à l'art. Je m'intéresse toujours beaucoup, beaucoup à l'architecture et j'essaie, tant que faire se peut, de pouvoir me l'appliquer. Donc, j'aime beaucoup rénover, construire, faire des plans, dessiner des escaliers. Ça, c'est des choses que je fais dans mon temps libre quasiment tous les jours. Et puis, je dirais qu'une grande partie de mon temps, c'est aussi mon fils maintenant parce qu'il grandit et qu'il y a beaucoup de choses à faire quand les enfants grandissent. Donc, je profite du peu de temps qui me reste pour lui faire découvrir le monde, que ce soit des contrées étrangères, des civilisations, des lieux historiques, emblématiques. Ils absorbent énormément à cet âge-là, c'est passionnant. Et j'aime découvrir, et donc découvrir avec lui aujourd'hui le monde, ça me plaît beaucoup.
Merci Léa.
Merci à vous.
Et voilà, c'était le tout dernier épisode de Haute Fréquence. Si cela vous a plu, vous pouvez écouter les autres parcours qui sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de l'AGFI. Et pour ne pas rater les prochains, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt !